décevoir.
L'être est aussi selon la fin.
Je me demande si...
L'intention de vie, elle porte sur ce qui nous finalise. Alors ça, c'est très beau. Parce que cette intention de vie va à la fois être garant de l'amour d'amitié et va permettre le dépassement de l'amour d'amitié. Très très beau ça, l'intention de vie. Il faudra essayer de comprendre bien ça. La naissance de l'intention de vie à l'intérieur de l'amour d'amitié. Et je crois qu'il faut m'arrêter maintenant pour laisser une dizaine de minutes de battement. Je vous salue, Marie.
Alors, tout d'abord, une question qui porte sur les passions. Pouvez-vous préciser la distinction des passions féminines et des passions masculines?
Je n'ai fait qu'une allusion. Hein.
Une petite étude qui a été faite.
Alors, dites-la.
Côté passion masculine.
Il faut se poser la question, est-ce que le concupiscible est plus développé chez la femme ou chez l'homme? Est-ce que l'irascible est plus développé chez l'homme ou chez la femme? Alors ça, le docteur Lamarche, je vous en pourrez.
Alors, côté passion masculine, alors l'amour, je répète, l'amour, la jouissance, la fuite, la crainte, l'espoir. Passion féminine, ça a dû être fait par des hommes, probablement. La haine.
Tellement.
Le désir, la tristesse, l'audace, le désespoir. Et la colère se trouve des deux côtés.
Alors, je crois, du moins personnellement, je ne ferai pas comme ça. Vous voyez ? Parce que je crois que l'homme et la femme ont toutes les passions. Il n'y a pas de différence entre les deux. Mais il y a une manière différente dans les liens avec les passions. Alors ça, c'est ça qui serait très intéressant à découvrir. Vous voyez ? Au fond, les passions dans leur structure, parce qu'on a fait l'analyse, la différence entre la psychologie moderne et l'analyse que je vous ai donnée, c'est que l'analyse que je vous ai donnée, c'est par le point de vue des objets différents de la passion. C'est le bien sensible, le bien ardu. Le bien sensible, la concupiscence, le bien ardu, l'irascible. Et puis, on a essayé de comprendre comment ce bien sensible et ce bien ardu se situent par rapport à l'homme. Se situent par rapport à notre appétit. Vous voyez, alors, quand c'est uniquement le bien, vous comprenez, le bien... C'est forcé. Une analyse qu'on a faite, comme toute analyse implique un aspect abstrait. Donc, en réalité, les passions sont liées les unes aux autres. C'est un enchevêtrement. Mais il est bon d'avoir une phase d'analyse où on essaie de comprendre ce que c'est que l'amour qui regarde le bien sensible. Quand ce bien sensible est absent, cet amour se transforme en désir. Et quand le bien sensible est possédé, le désir se transforme en jouissance. Vous voyez ? C'est un amour qui a des états différents, des moments différents, suivant que le bien est présent, que le bien est absent. Comme ce bien sensible implique toujours un revers de médaille, qui est le mal, le bien sensible n'est jamais absolu. Donc, à l'intérieur de ce bien sensible, il pourra naître une certaine haine. Parce que ce bien sensible n'est pas le bien absolu. La rose a des épines. La rose, je l'aime. Les épines, je ne les aime pas. Elles suscitent en moi un mouvement de retrait. Et elle peut, si ça me pique de trop, j'ai de la haine. Vous voyez, au fond, c'est, je prends ça symboliquement, mais c'est exactement comme ça. La rose et les épines. J'aime tel bien, mais ce bien va impliquer, parce qu'il est limité, il va impliquer un certain mal. Que je ne verrai pas toujours. au point de départ. Je peux très bien regarder uniquement l'amour sans voir les épines. Et puis, par bonheur, j'ai eu un rosier qui n'avait pas d'épines, il y avait que... Au point de départ, c'est comme ça, souvent. Et alors, j'ai trouvé cette rose là, et puis tout d'un coup, je me précipite. Oh, t'es frais, tu as changé. Ça a changé. Il y a des épines que je n'avais pas vues. Et alors, souvent, ça suscite une réaction toute différente. Parce que ce bien sensible implique nécessairement des limites et peut impliquer un mal. Alors, vous avez la haine, l'analogue au bien. Mais je vous avais dit, il faut bien comprendre que la haine est toujours liée à l'amour. Il n'y a pas de haine passionnelle. Il n'y a pas de haine passionnelle sans qu'il y ait un amour. De sorte que la haine peut-être se développer plus dans un cœur féminin que dans un cœur masculin. C'est peut-être possible. Pourquoi ? Parce que la femme, ordinairement, au niveau passionnel, est plus absolue que l'homme. Alors, ça, c'est peut-être une considération qui est intéressante. Ça, je crois qu'on pourrait le dire. On pourrait dire que la femme est plus absolue que l'homme. Vous voyez, il y a une intensité de passion plus grande chez la femme que chez l'homme. L'homme a normalement, en raison, alors ça, il faudrait voir en raison des cultures, peut-être, parce que ce ne serait peut-être pas toujours vrai dans toutes les cultures, mais en raison des cultures, l'homme a ordinairement le développement de la raison, je ne dis pas de l'intelligence, l'homme a ordinairement la raison plus développée. Il est plus rationnel, l'homme. Il est plus rationnel, donc il est plus typiquement l'animal rationnel. Vous voyez bien, la définition de l'homme, il représente ça, il est plus rationnel. Et la raison, de fait, est un frein terrible vis-à-vis des passions. Je ne sais pas si le stoïcisme aurait pu se développer chez une femme. Le stoïcisme, pour moi, est une vertu, est une philosophie typiquement de l'homme. Alors que le platonisme est une philosophie beaucoup plus féminine. C'est très très curieux ça. Alors là aussi je vois dans les philosophies des philosophies qui seraient plus féminines et des philosophies qui seraient plus masculines. Mais c'est pas pour dire telle passion, non. C'est le lien des passions. C'est l'intensité des passions. C'est la modalité de l'exercice des passions qui n'est pas le même chez l'homme et chez la femme. Alors ça, ce serait très, très intéressant à développer. Ça n'a pas été tellement développé. Parce qu'au fond, les analyses qu'on fait, tempérament masculin, vous voyez, ça ne se fait pas. On n'analyse pas la passion. Alors, on devrait pouvoir analyser cela. Et ça, ce serait très intéressant. Ça aiderait beaucoup le point de vue des psychologues. Ça aiderait le psychologue de voir que, de fait, les passions ont des intensités plus grandes. Moi, je dirais ça assez facilement. Je crois que la femme est plus passionnée que l'homme. Ordinairement. Elle est plus passionnée. Elle a une espèce de spontanéité plus grande du côté de la passion que l'homme. Et alors, parce que les passions sont plus fortes, lorsqu'il y a, vous voyez, une déception de la femme, quand elle est déçue, est plus blessée que l'homme. L'homme est moins blessé. C'est du reste très souvent ce que diront les femmes. Oh, les hommes, ils croient aimer, pas du tout, ils en trouveront une autre. Prenez ceci, comme ça. L'homme joue plus que la femme. Je connais quelqu'un qui est une personne assez curieuse, qui n'a pas d'enfant, et alors elle s'est mise à aimer beaucoup les animaux. Mais elle est de façon très, 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 très bien, de façon très intelligente. Et alors elle élevait des renards. En Normandie, vous comprenez, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et elle a écrit très un petit livre là-dessus, sur la manière dont elle... Alors, elle m'a fait ces petites réflexions qui m'ont semblé extrêmement intéressantes. Il faut faire attention quand on transpose par rapport à l'homme, hein. Il y a quand même un passage. Mais c'est intéressant de voir ça. Elle m'a dit, elle avait donc un couple. Quand la renarde féminine, attendait le petit. Son instinct est revenu d'une force extraordinaire et elle n'est pas restée, elle est partie. Tandis que le mâle est toujours resté parce qu'on joue avec lui. C'est une petite remarque qui m'a beaucoup intéressé. Ça va très loin, ça. Oui, on joue beaucoup plus facilement avec un homme qu'avec une femme. Et bien ça, pour moi, c'est par là qu'on devrait regarder la question des passions. Vous voyez, on joue. Jouer, c'est la raison. Ce n'est pas les passions. Il y a des passions qui naissent dans le jeu. Mais on joue. Vous voyez, on détourne les transferts. Tandis que la femme, elle est beaucoup plus racée. Comprenez dans quel sens. Elle est beaucoup plus enracinée dans ce que représente les exigences fondamentales de l'amour. Une femme, normalement, trouve beaucoup plus vite sa finalité que l'homme. Beaucoup plus vite. Et quand elle a découvert la finalité par le point de vue de l'amour, elle est beaucoup plus enracinée dans cela. Et l'homme l'énerve en fonction de sa capacité de jeu. L'homme peut jouer. Le jeu, c'est justement le dilettantisme, vous comprenez, par rapport à la finalité. Il y a un jeu qui peut être très bon, mais il y a un dilettantisme. Et le dilettantisme agace la femme. Très, très souvent. Parce qu'elle est beaucoup plus enracinée dans le point de vue de la finalité. Et c'est pour ça que je dis que les passions chez elle sont plus véhémentes que chez l'homme. Et l'homme trouvera en disant « Oh, mais un peu de calme, il faut pas si véhément pour faire. » Elle est passionnée, voulez-vous. Alors, je crois que les passions chez la femme aura une modalité, je prends ici surtout les passions concupiscibles, aura une modalité beaucoup plus forte chez la femme. C'est pour ça que l'amour et la haine se donneront d'une façon beaucoup plus forte chez elle. Pas la jouissance. L'homme aimera mieux jouir plus que la femme. Ça, très souvent. Pourquoi ? Là encore, à cause du jeu. Mais, alors, c'est par ces données-là qu'on pourrait découvrir des modalités, des exercices différents de la passion chez l'homme et chez la femme. Je vous donne ça à titre d'expérience, que forcément, si on est philosophe, je ne dis pas du tout, vous voyez, qu'on a un laboratoire psychologique, mais je réfléchis beaucoup sur ces données-là, parce que ça m'intéresse énormément. Ça m'intéresse énormément, parce que je crois qu'on devrait pousser l'analyse philosophique beaucoup plus qu'on l'a fait. La scolastique s'est contentée de rester au point de vue théologique, l'énumération des passions. Et on n'a pas regardé l'exercice des passions. Or, la psychologie, elle, regarde l'exercice. Et alors, c'est pour ça qu'il y a un hiatus constant entre la philosophie et la psychologie, parce que le philosophe paresseux n'a pas fait l'exercice. C'est le philosophe qui doit aller vers le psychologue. Le psychologue doit s'intéresser à la philosophie si le philosophe va vers le psychologue. Si le philosophe va vers le psychologue, alors, à ce moment-là, le psychologue dira « Ah, tiens, il y a quelque chose d'intéressant, ce que vous me dites. J'avais pas pensé à ça. C'est vrai, poussons un peu. » Et alors, à ce moment-là, on convertit le psychologue en philosophe. Et je crois qu'on ne peut être un bon psychologue que si on est philosophe. Et on ne peut être un bon philosophe par rapport à la vie humaine que si on a quand même un certain sens de la psychologie. Oui. Alors, je vais tout de suite vous donner un petit peu là une petite clé au point de vue philosophique qui me semble très intéressant. Bon, nous avons fait l'analyse, hein. C'est l'analyse. L'amour, le désir, la jouissance. Bon, c'est ce qu'est la passion amour. Qu'est-ce que c'est que la passion amour? Je définis la passion amour, définir, dans le sens où on le disait l'autre jour. On précise ce qu'est la passion amour en disant la passion amour ne regarde que le bien sensible. C'est le bien sensible comme tel. Tandis que le désir, c'est le bien sensible absent. Donc, on insiste sur la tension. L'amour n'est pas tendu. Tandis que le désir est tendu. Les hommes de grand désir, c'est des hommes tendus à bloc. Il faut faire attention, justement. Faire attention. La jouissance, c'est la grande détente. C'est la grande détente. On joue, on ronronne. Le petit chat près du feu, c'est merveilleux de voir comme il joue. Il gratte la tête, c'est merveilleux. Alors ça, c'est la jouissance, c'est la détente. Hein. Il y a une détente dans la jouissance. c'est très intéressant de voir l'analyse de ça. Mais il ne faut pas seulement regarder qu'est-ce que c'est que l'amour. Il faut regarder comment l'amour. Vous voyez, alors nous avons les deux grandes interrogations philosophiques. Qu'est-ce la passion? Quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que la passion? J'ai dit la passion, c'est l'amour. La passion, c'est le désir. La passion, c'est la jouissance. Enfin, trois passions différentes qui regardent le bien sensible du conflit ici. Puis je regarde en même temps, puisque le bien sensible est toujours lié au mal, alors je dirais la même chose, il y a la haine. La passion, qu'est-ce que c'est que la passion? C'est la haine. C'est la fuite. C'est la tristesse. Mais je me pose la question, comment s'exerce l'amour? Vous voyez, c'est la question du comment. Alors ça, il faut bien voir que les philosophes, surtout dans la scolastique décadence, étaient très fatigués. Et alors, ils se sont contentés de répéter. Ils n'ont jamais regardé le comment. Comment se trouvent réalisés les liens entre l'amour et le désir? Entre les liens entre l'amour et la haine? C'est quand même très intéressant de voir. Comment je passe de l'amour à la haine? Et comment? Je crois que le passage de l'amour à la haine chez la femme est plus rapide que chez l'homme. C'est une question de rapidité. C'est une question de... C'est très très curieux là. C'est une question de rapidité qui existe chez la femme et chez l'homme. La femme, au niveau passionnel, est beaucoup plus rapide que l'homme. L'homme est plus lent. Ah, c'est juste. Parce que la femme est plus passionnée. Quand on est passionné, on est très rapide. Les êtres passionnés sont rapides. Les êtres non passionnés sont lents. C'est la raison. La raison est lente. Évidemment, il faut raisonner, il faut quand même réfléchir, il faut s'asseoir, il faut voir toute la complexité du problème. Quand vous êtes passionné, vous dites, c'est pour ça du tout, c'est idiot, quoi. On perd du temps, allons-y directement. Alors, il y a le passage de l'amour et de la haine qui est beaucoup plus rapide. Tandis que l'homme, moins. Alors c'est ce que l'intervention, je dis l'intervention du jeu. Le jeu dans le sens jouer. On est l'intervention du jeu, c'est-à-dire de la raison. Parce que c'est la raison qui met cette espèce d'attitude réflexive pour essayer de comprendre mieux la relativité des choses, comprendre mieux le lien entre les moyens et la fin. Ça, c'est ce point de vue-là. Ça peut être très bon, ça se développe dans la prudence, ça peut être très bon, mais ça peut être aussi un terrible frein à l'égard des passions. Vous voyez ? Alors, c'est dans ce sens-là, bon, on ne va pas creuser plus, puisque ce n'est pas directement le but de ça, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Et ce n'est pas du côté, vous voyez là, c'est ça qui est intéressant. Il faut toujours, quand on pose une question, répondre à la question. Là, vous avez fait la distinction en regardant les passions en elles-mêmes. Non, l'homme et la femme ont les 11 passions. Mais je regarderai la différence, comme presque toujours du côté de l'homme et de la femme, c'est du côté de l'exercice. C'est du côté du comment. Du côté du tiesti, hein, du côté du qu'est-ce que c'est. L'homme et la femme ont la même nature. Il n'y a pas une côte de plus. Il y a la même nature. Il y a la même nature chez l'homme et la femme. Donc, du côté abstrait, c'est la même nature. C'est du côté concret, du comment, du côté de l'individu. La femme n'est pas individuée de la même façon que l'homme. C'est du côté de l'individuation. Et donc, c'est du côté de l'exercice des passions. C'est dans l'exercice des passions que je vois la différence. Et alors, l'exercice des passions peut se comprendre de deux manières. Du côté de l'intensité. Alors là, je crois que c'est assez net. Et du côté de l'intensité, il y a par le fait même des télescopages. Alors que quand l'intensité est moins grande, les télescopages ne se font pas. Et quand je passe le télescopage, c'est-à-dire qu'on passe plus rapidement d'une passion positive à une passion négative. On passe plus facilement de l'amour à la haine. On passe plus facilement du désir à la fuite. On passe plus facilement de la jouissance à la tristesse. Vous voyez ? Alors il y a des chutes plus rapides du côté de la femme. Ça c'est vrai, je crois. Beaucoup plus, parce qu'elle est plus passionnée. Car c'est du côté de cette rapidité. Oui, de la passion. Et alors, il serait intéressant, alors là, ce serait un problème qui serait très difficile, mais qui serait très intéressant, c'est de voir, y a-t-il, du côté de la femme et du côté de l'homme, des liens différents entre les passions, en raison même de cette rapidité. Mais du côté de la nature même des passions, c'est la même chose, il y a une onze passions. Alors vous voyez, c'est très curieux parce qu'on est arrivé, c'est très amusant, la colère, puisqu'il n'y a pas de contraire, on est dit nécessairement la commune de l'homme et de la femme. Mais c'est pas uniquement la colère, c'est toutes les passions qui sont communes. Mais l'exercice est différent, la modalité d'exercice est différente.
Une question qui est aussi liée à celle-ci.
Pourquoi y a-t-il plus de femmes dans les églises que d'hommes?
Alors je dirais, vous savez, la liturgie dit ça d'une façon très très jolie. La liturgie parle de la femme en disant le sexe pieux. Et c'est vrai, ça. Dans les conférences religieuses, il y a plus de femmes que d'hommes. Ordinairement, c'est comme ça. C'est ce qui arrive. Alors là, je crois qu'il y a beaucoup de raisons. Sont plus passionnées, elles sont plus aimantes. La femme est médiatrice dans l'ordre de l'amour. Ça, je crois que c'est capital. Et alors, Platon a donné quelque chose d'extraordinaire. Parce que je dis, Platon, qui était, c'est très curieux, parce que Platon était anti-féministe, et Platon a une philosophie féminine. Très, très curieux, parce que c'est la contradiction de Platon. Parce que Platon, vous savez bien la manière dont il traite la femme. Hein. Je sais pas, quand on dit divin Platon, et que je vois des étudiantes qui sont férues de Platon, je dis, regardez comment Platon traitait la femme. Hein. Vous savez bien, quand l'homme se conduit mal, il se réincarne dans une femme. Et quand la femme se conduit mal, il se réincarne dans un animal. Alors, vous voyez donc que pour Platon, l'homme, c'est au sommet. Hein. C'est quand une femme a été très très vertueuse, très très vertueuse, la femme forte de l'Ancien Testament, hein, de l'Épître d'aujourd'hui, j'y pensais pas en lisant l'Épître, mais la femme forte de l'Ancien Testament, elle se réincarne dans un homme. Oui, parce que c'est Platon qui dit ça, c'est pas vrai. Mais Platon dit ça. Platon considère que la femme doit être le bien commun de tous les hommes. Dans la République. Le communisme intégral. Pour arriver à une unité plus parfaite. Donc le divin Platon a une des conceptions qui vont très très loin. Hein. Très très loin. Et cependant, Platon, je dis, c'est une philosophie qui pour moi serait la philosophie féminine. Pourquoi ? Dans le banquet, qui est le livre sur Eros, l'amour, c'est un très très beau livre. Hein. Si j'avais le talent de Platon, je récréerais le banquet aujourd'hui. Et j'aimerais beaucoup de faire ça. Il faudrait faire ça à plusieurs. Alors on mettrait le psychanalyste, le freudien, on mettrait le rhéteur, on mettrait le libéralisme giscardien, ce serait très intéressant, ça fait d'avoir des types différents, n'est-ce pas, qui parleraient de l'amour. Demandez à Giscard de parler de l'amour. Demandez à un psychanalyste de parler de l'amour. Demandez à une Simone Veil de parler de l'amour. On les typerait, n'est-ce pas. Et on aurait alors des sermons, et bien là, il y aura des religieux, le philosophe Socrate. Tu montrais que tous ces livres, c'est ça le banquet. C'est un très très beau livre, c'est un livre merveilleux. Okay. C'est pas commode à lire puisque foncé c'est vrai, c'est bien. Il y a tout point de vue de l'époque qui est, mais c'est très grand, c'est beau, c'est très beau. Et alors, Socrate, quand il parle de l'amour, Socrate, hein, que Platon considère comme son maître. Socrate dit qu'il a été initié à l'amour par la prêtresse. Diotime. C'est extraordinaire de voir ça. Socrate, qui lui, quand même, a reçu l'oracle de Delphes. Socrate a été initié à l'amour par Diotime. La prêtresse. Ah, vous voyez, je crois que là, il y a quelque chose de très intéressant. Parce que Platon est quand même génial. Hein. Je ne suis pas platonicien, mais je reconnais le génie de Platon. Il est génial. Platon, comme dit Hegel, il ne faut pas s'oublier, Hegel dit, Platon ne forme pas. C'est très intéressant. Platon ne forme pas, il ne peut pas former un esprit. Mais il est génial de des intuitions fulgurantes. Eh bien, je crois que là, il y a une intuition fulgurante et très intéressante à voir. Comment, pour Platon, la femme est médiatrice d'amour. L'amour est médiateur, Platon. Il est intermédiaire. Et la femme est médiatrice d'amour. Et donc, c'est Diotime, la prêtresse, qui est clinicienne Socrate. Elle est médiatrice d'amour. C'est la femme qui est responsable au sens très très fort de l'amour. C'est elle qui est gardienne de l'amour. Elle est gardienne de la langue du sanctuaire, vous voyez, du foyer. Elle est gardienne de l'amour. Et il faut qu'elle comprenne cela. Alors, quel est le premier amour dans le cœur de l'homme? C'est un amour religieux. Il faut les idéologies moderne pour supprimer ça, mais le premier amour de l'homme, c'est justement un amour religieux. Et donc, la femme est plus proche de l'attitude religieuse que l'homme, parce qu'elle est médiatrice dans l'ordre de l'amour. Elle comprend plus facilement ce que c'est que l'amour, elle comprend plus facilement comment la dépendance peut être vécue dans l'amour, non plus comme une dépendance, mais comme une libération. C'est ça, je crois, le génie féminin. Et ça, c'est Diotime. Alors, on comprend comment la femme est plus proche de l'attitude religieuse que l'homme. Parce que l'attitude religieuse, qu'est-ce que c'est que l'attitude religieuse? Si je prends l'attitude religieuse au plan philosophique, dans ce qu'il y a de tout à fait fondamental, c'est de considérer que l'amour peut assumer une dépendance. Et que l'amour, en assumant une dépendance, la dépendance radicale à l'égard de Dieu, l'amour assume cette dépendance dans l'adoration. Et en assumant cette dépendance, je me dépasse moi-même, donc je me libère de moi, je me libère de mon égoïsme. Et donc c'est ça le propre, je crois, de l'amour dans ce qu'il a de plus profond. Eh bien la femme comprend plus vite cela que l'homme. L'homme a plus de peine. Une fois que l'homme l'a compris, il y a une stabilité plus grande dans l'homme. Ça m'a toujours beaucoup frappé. Alors ça fait appel à des prédications. J'ai beaucoup prêché chez des contemplatives, donc, et chez des contemplatifs. Mais ce qu'on voit la plupart du temps, c'est qu'il y a très peu de contemplatifs. Il y a beaucoup plus de contemplatives. C'est très glorieux. Regardez au Carmel, hein, c'est significatif. Il y a beaucoup de Carmel femmes, il y a très peu de Carmel hommes. Très peu. Il y a quelques Carmes qui sont des grands contemplatifs. C'est évident à Saint-Jean de la Croix. Il y a quelques Carmes, mais il y a beaucoup plus de Carmélites qui sont des contemplatifs. Ça, normalement, dans un Carmel, on trouve quand même quelques grandes contemplatives qui sont des femmes contemplatives et qui ont une dimension de femmes contemplatives qui est très grande. Mais il y a peu d'hommes contemplatifs. Ils sont des professeurs. Ils ne sont pas des contemplatifs. Mais c'est différent, c'est pas la même chose du tout. Le professeur, c'est justement celui qui... c'est le développement de la raison, tandis que le développement de la contemplation, c'est le développement de l'humour. Et alors, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, vous voyez. Il y a quelque chose qui est une dimension plus grande. Alors, la femme est beaucoup plus proche de ce domaine du développement de l'amour, qu'il s'agit religieux ou contemplatif, que l'homme. Quand l'homme l'a compris, il y a une stabilité plus grande. Ça, c'est sûr. Mais la femme aura toujours en elle cette qualité dominante d'être médiatrice dans l'ordre de l'amour. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Je crois que je peux le dire au point de vue philosophique, et puis je le confirme par le point de vue de la foi. Par le point de vue de la foi, c'est très net. C'est pour ça que la nouvelle alliance est une alliance d'amour, la femme passe avant l'homme. Tandis que dans l'alliance ancienne, qui n'était pas l'alliance d'amour, qui était une alliance de la loi, et donc de la justice, l'homme passe avant l'homme. L'homme a plus ce sens de la justice que la femme. La femme a plus ce sens de l'amour. Et ça, c'est beaucoup plus. donnerai pas le ministère de la justice à une femme, si j'étais Mitterrand. Je n'en aurais pas. Tandis que je pourrais donner un ministère de l'éducation à la femme. Parce qu'elle peut comprendre beaucoup plus facilement ce que c'est que l'éducation. Pour le point de vue de l'amour. Ou bien le point de vue religieux. Quand une femme n'a plus aucun sens religieux, c'est-à-dire une femme athée, elle est farouche. Pourquoi ? Parce qu'elle est en contradiction avec elle-même. Très très curieux de voir ça. Et les gens les plus farouchement athées, c'est presque toujours des femmes. Pourquoi ? Parce que c'est passionné. Et elles vont contre leur nature. Et elles se détruisent. Et alors elles sont toujours de mauvaise humeur. C'est extraordinaire comme ça. Et alors, quand vous avez ça, vous pouvez leur montrer qu'elles sont de mauvaise humeur parce qu'elles vont contre ce qui en elles est plus profond. Elles sont faites pour l'adoration et la contemplation. Beaucoup plus profondément que l'homme. Et là, on se joindrait. Ce serait intéressant à joindre par rapport aux passions. Vous voyez, par quelles sont les passions qui sont liées aux sentiments religieux.
Qu'est-ce que l'imaginaire, comment l'imaginaire peut-il corrompre notre amour et comment l'imaginaire intervient-il dans la prière?
Ça, c'est très important. Je n'ai pas posé la question maintenant, je ne sais pas si je vais répondre ça maintenant, parce que ça nous fait revenir. J'ai envie de poser cette question. C'est la dernière question. Alors, l'imaginaire, je le laisse de côté, c'est très très important. Vous me rappellerez si je ne le traite pas.
Au sujet de l'amour d'amitié, doit-on aimer chacun d'amour d'amitié?
Ah, chacun?
Et chaque personne.
On ne peut pas aimer d'un amour d'amitié aussi fort que l'amour d'amitié tout le monde. Au point de vue humain, au point de vue surnaturel, je dois aimer tout le monde d'un amour de charité. Or, l'amour de charité est un amour d'amitié. Mais alors, c'est grâce au Christ, vous voyez? C'est par la médiation du Christ que je peux avoir un amour d'amitié universel. C'est par le Christ, à cause du cœur de Jésus. Je ne peux pas par moi-même. Donc au niveau philosophique, je dirais que je ne peux pas aimer tout le monde d'un amour d'amitié. Mais je peux aimer tous ceux qui sont proches de moi dans un amour de concorde, d'harmonie, qui tend vers l'amour d'amitié, mais qui n'implique pas ce choix préférentiel. Vous voyez, c'est ce qu'est la fameuse question de quand on forme un groupe, par exemple, on doit travailler ensemble. Alors, par le fait même, il y a une espèce d'harmonie, et une harmonie qui implique non pas une amitié au sens absolu, mais la concordia. C'est très difficile de traduire ça en français, là. Une concorde qui fait qu'il y a une certaine harmonie, un certain respect mutuel les uns par rapport aux autres. Mais tout cela n'existe que s'il y a des moments forts qui sont des amitiés. Je crois qu'une communauté ne peut exister que si dans cette communauté, il y en a certains où il y a des vrais liens d'amitié. C'est quelque chose qui porte toute la communauté. Ça me semble très très net. C'est des exemples qui sont très nets quand on enseigne, par exemple. Là, c'est un exemple que je peux avoir. Donc, dans l'enseignement, il y a eu des moments très durs en 68. Il y a eu des moments très durs. Où vraiment, même en Suisse, il y a eu des secousses. C'était des secousses un peu secondaires, mais c'était quand même des secousses. Des secousses qui venaient de Genève jusqu'à Fribourg. Les Fribourg étaient reliés à Cuba. Et il y avait un lien avec Cuba pour essayer de faire sauter Fribourg. Parce que dans la perspective, Fribourg, c'était le lieu catholique, c'était le lieu où on enseignait encore la vérité, donc il fallait faire sauter Fribourg, et surtout la philosophie. Donc la philosophie était visée en premier lieu, directement. Bon, ça a été très cru à ce moment-là, parce que les étudiants nous ont demandé, il y avait des cinq professeurs, de pouvoir écouter leur desiderata. Pas mieux, mais pour vous. Pas mieux. Alors ils se sont mis à dire, là, on s'est mis avec les étudiants, et puis eux, ils formaient un petit comité, ils se viennent assez particuliers. Vous voyez, ça ne peut pas aller très loin parce qu'on les connaissait trop bien. Là, ça ne peut pas aller loin. il y avait un lien quand même de concordia, de concorde entre étudiants et les professeurs, parce que l'université de Fribourg étant petite, on se connaît. Bon, alors, ils ont commencé par leur réclamation. Alors, quelqu'un a levé la main, a dit, mais d'où viennent vos réclamations? On n'a pas été consulté, c'est les étudiants qui ont dit ça, les étudiants ont pris. Donc, parmi les étudiants, il y avait un mélange très très fort. Et puis alors, ils ont dit, ah, ça vient de Genève. Ah, ils ont lâché un mot qui était trop rapide. Ils ont dit, mais on s'en fiche de Genève, nous sommes ici à Fribourg. Si on a choisi de venir à Fribourg, vous, vous êtes à Fribourg parce que vous êtes du canton de Fribourg, mais nous, nous sommes des étrangers. C'était un Vietnamien qui disait ça. Nous sommes des étrangers, nous avons choisi Fribourg plutôt que Genève. Et donc, vous n'allez pas mettre Fribourg en dépendance de Genève. Nous ne voulons pas ce genre de réforme. Vous n'avez pas été capable de réfléchir sur Fribourg et ce que vous en devez. La lutte est venue entre les étudiants, ce n'était plus du tout entre les étudiants et les professeurs. On était sauvés à ce moment-là. Et puis alors, ça a été un peu plus loin. Alors, toujours cet étudiant qui était un Vietnamien, un peu plus âgé que les autres, qui avait fait deux ans à Moscou. Alors, il a dit, c'est très curieux ce que Genève réclame. Vous savez d'où ça vient ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait à Moscou. Eh bien, moi, j'ai été 2 ans à Moscou et j'ai quitté parce que ça ne m'intéressait pas. Et je suis venu ici en Suisse et j'ai choisi Fribourg parce que je savais qu'à Fribourg, je trouverais autre chose. Alors, si vous voulez, alors à partir de là, tout a été brisé parce qu'on savait que c'était Moscou. Donc, c'était très curieux comment ça s'est fait à partir de là. C'est tout simplement parce qu'il y avait des liens d'amitié. Alors il fallait reconquérir, c'est évident, il fallait reconquérir le climat, parce que le climat était il y avait des mines partout. Et comment reconquérir le climat? C'était tout simplement de former parmi les étudiants des petits noyaux d'amitié. Dès qu'ils s'est reformé ces petits noyaux d'amitié, après ça a été très bien. Et je crois que c'est tout le temps comme ça. On recrée une communauté par des liens d'amitié. Des liens d'amitié qui sont des liens d'amitié forts, profonds. Il suffit qu'il y en ait 2, 3, 4, mais pas nécessairement des. Vous voyez, des petits noyaux, des petits soviets d'amitié. Alors quand vous faites des petits soviets d'amitié, vous faites sauter le grand soviet. N'est-ce pas ? Parce que vous êtes sûr et vous êtes sûr sur tel ou tel point qu'on t'aime. Et alors ça rayonne. C'est la force de l'amitié. Alors voyez, on ne peut pas aimer tout le monde de la même façon, c'est impossible. C'est absolument impossible. Le vieux Molière avait très bien compris ça. Il avait très bien compris qu'on ne pouvait pas aimer tout le monde de la même façon. Mais on peut aimer sans exclusion. Ça, c'est le véritable amour d'amitié. Le véritable amour d'amitié est sans exclusion. Il y a un choix qui porte sur tel ou tel individu, mais on n'exclut pas. C'est une amitié ouverte, comme on dirait, si vous voulez. Il y a la morale ouverte et la morale fermée de Bergson. Hein. On pourrait dire qu'il y a des amitiés ouvertes et des amitiés fermées. Eh bien, les amitiés ouvertes sont les vraies parce qu'elles sont spirituelles. Les amitiés fermées proviennent de la jalousie. Alors c'est fermé. Alors on exclut. Dès qu'on exclut, ça prouve que justement, il y a un état passionnel qui fait qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a plus cette ouverture profonde qui permet, on aime quelqu'un, on l'aime profondément, mais ce n'est pas exclusif. Si on aime la personne, il n'y a pas de danger, donc ce n'est pas exclusif. Le jour où ça devient exclusif, attention, il y a la passion qui donne. Vous voyez, je crois que ce serait ça qui nous permettrait de mieux discerner comment l'amour d'amitié est absolument nécessaire pour toute communauté. Les liens d'amour d'amitié, c'est absolument nécessaire. C'est ça qui fait le noyau de tout amour d'amitié. Et ces noyaux, alors, demandent de s'étendre et de s'ouvrir. C'est pas exclusif.
Peut-on aimer Dieu d'amour d'amitié?
Alors, naturellement, c'est-à-dire, si vous voulez, sans la grâce, il y a l'adoration et il peut y avoir un amour vers Dieu, c'est sûr. Mais comme nous ne savons pas la qualité de l'amour de Dieu sur nous, au sens fort, on ne peut pas dire au sens strict qu'il y a un amour d'amitié au point de vue naturel. Mais au plan surnaturel, au plan divin, le Christ est venu nous révéler qu'il y a un amour d'amitié entre Dieu. C'est la grande révélation du Christ. La grande révélation du Christ, c'est de nous révéler qu'il y a un amour d'amitié. Voyez dans les autres religions, très significatif. Voyez, on regarderait même dans l'islam. Dans l'islam, il y a un amour divin d'adoration extrêmement poussé. Mais il n'y a pas la même intimité que dans le christianisme. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas la charité fraternelle. La charité fraternelle provient qu'il y a un lien d'amour d'amitié entre nous et Dieu. Et ce lien d'amitié entre nous et Dieu va pouvoir rayonner dans la charité fraternelle. Mais si vous regardez dans l'Ancien Testament, on ne peut pas dire. Il y a une certaine alliance, l'époux et l'épouse, mais c'est plus général. Vous voyez, ce n'est pas individualisé. Alors, l'amour d'amitié demande d'être personnel, et donc individualisé.
Deux questions qui sont plus théologiques.
Ah, peut-être ce soir, là.
C'est quoi, amitié ? D'une part, comment le mystère de la prédestination vous est-il révélé par le coup de lance ?
Ça, c'est ce soir.
Une question plus difficile. Comment expliquer la contamination de l'âme par le péché originel alors qu'elle est créée immédiatement par Dieu ? Le péché originel est transmis par génération, est-ce par le corps ?
Alors ça, on verra ça ce soir. Je crois qu'il est mieux. Pour maintenir, on verra ça ce soir assez rapidement, mais c'est quand même important de voir. J'ai mieux essayé avec vous d'avancer. Et puis voir le point de vue de l'imaginaire, parce que c'est quand même très important ça. Voilà. On va essayer de comprendre cette chose que je crois importante à saisir, difficile mais importante à saisir. Comment l'amour d'amitié qui se noue dans le choix. L'amour d'amitié se noue dans le choix. Il y a un choix personnel, réciproque, libre. Conscient. Donc là, je donne une note dominante de ce choix. Ce choix noue deux personnes. Et noue deux personnes dans le désir de réaliser quelque chose en commun. Et donc il y a le même vouloir. Pour que cet amour d'amitié puisse se réaliser pleinement, il présuppose la même intention de vie. Le passage entre le choix et l'intention de vie, c'est quelque chose de très important à saisir, ça. C'est très important à saisir. Alors, on va essayer de dire un tout petit mot sur ce que représente une intention de vie. Et puis, on comprendra mieux. Alors, à ce moment-là, le lien entre le choix réciproque, le choix mutuel et l'intention de vie. Le choix regarde la personne. L'intention de vie regarde notre fin. Vous allez voir. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intention ? Avoir une intention de vie. L'intention de vie n'est pas un projet. Mais c'est très proche d'un projet. Le projet est d'ordre artistique. C'est d'ordre artistique le projet. J'ai un projet, fabriquer une maison. J'ai le projet de faire l'oubli. C'est un projet, ça. Et l'oubli, j'ai construit telle ou telle maison, il faut encore en construire une. N'est-ce pas ? Donc, j'augmente le projet. Ça, c'est le projet. Le projet regarde une œuvre qu'on veut réaliser. L'œuvre qu'on veut réaliser, c'est quelquefois un voyage. C'est un projet, j'ai ce projet-là. Tandis que l'intention de vie naît à partir d'un amour. D'un amour spirituel qui porte sur le bien, c'est-à-dire sur la personne. Alors vous avez là les trois dimensions, hein. Le choix, l'intention, l'amour spirituel. Vous voyez, je rejoins ce que je vous disais hier au soir. Qu'est-ce qu'il y a de fondamental et premier dans l'aspect volontaire ? C'est cet amour spirituel. Cet amour spirituel est fondamental et le choix personnel ne peut exister que grâce à cet amour spirituel. Mais entre ce choix et cet amour spirituel, il y a une intention. Donc il y a ces trois qu'il faut bien saisir. Si je veux analyser ce que c'est que l'amour d'amitié au niveau proprement philosophique, je vois que l'amour d'amitié implique nécessairement un choix. Ce choix présuppose une intention de vie, et ce choix va s'épanouir dans une intention de vie. C'est pour ça que l'intention de vie est à la fois une disposition. Pour qu'il y ait un choix, il faut une intention de vie, et en même temps, l'intention de vie va être la propriété, la conséquence, la propriété, c'est-à-dire la conséquence, c'est l'effet, si vous voulez. Tout amour d'amitié va s'épanouir dans une intention de vie. Vous voyez, le rôle de l'intention de vie est double, c'est très très curieux ça. Et on ne le voit pas assez dans l'amour d'amitié. On va essayer de développer ça, parce que ça c'est très important. C'est à la fois du côté de la disposition et du côté de la propriété. Et alors, l'intention de vie présuppose un amour spirituel, qui en est comme le fondement. Le fondement de tout amour d'amitié, qui implique le fondement, implique un amour spirituel. C'est le fondement. Alors, un fondement, quand je dis fondement, c'est justement quelque chose de caché. Cet amour spirituel premier, je n'en ai pas une conscience absolue. Je le découvre progressivement. Je découvre qu'il y a nécessairement un amour spirituel à l'égard d'une personne, mais ordinairement, cet amour spirituel ne se développe tout de suite à travers une intention de vie et se développe à travers un choix. Mais ce choix implique profondément et radicalement un amour spirituel. C'est pour ça que je ne peux jamais arriver à déceler à quel moment est né cet amour spirituel, ce que je vous disais hier. On ne pourra jamais arriver à déceler à quel moment. Mais je peux constater qu'il existe. Si actuellement, j'aime d'un amour d'amitié quelqu'un que j'ai choisi comme ami, je peux dire que j'ai vis-à-vis de cette personne un amour spirituel. Il y a un premier amour qui est cet amour spirituel, qui est là présent. Bon. Cet amour spirituel jaillit donc de ma volonté. Je veux aimer et j'aime. Vouloir aimer et aimer, c'est la même chose.